Les infos à Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13h à Conakry, 14h à Bangui. Bienvenue à notre journal. Au Nigeria, la police a libéré 259 personnes d'une maison de correction islamique dans le sud-ouest du pays. Une remise en liberté opérée dans le cadre de la série de descentes de police similaires dans tout le pays ces dernières semaines. Nous avons découvert lundi des hommes, des femmes et des enfants qui étaient retenus en otage dans ce centre de détention illégale géré par une mosquée à Ibadan, a déclaré Fadeyi Olugbenga, porte-parole de la police de l'État d'Oyo, en soulignant que le propriétaire de l'établissement et 8 autres personnes ont été arrêtées dans le cadre de l'enquête en cours. Une dizaine de raids similaires ont déjà été menés dans des maisons de correction religieuse au Nigeria depuis septembre. Ces centres de redressement privés, souvent informels à caractère religieux, sont très répandus dans le pays où la pauvreté est élevée et où les services publics sont souvent absents. Le fort taux de consommation de drogue et le manque d'installation de réadaptation après des problèmes mentaux ou autres poussent de nombreux parents à inscrire leurs enfants dans ces écoles de redressement. La lutte contre les djihadistes dans le Sahel maintenant au Mali. Le président Ibrahim Boubacar Keïta a exhorté les Maliens lundi soir à l'union sacrée derrière leur armée, alors que l'existence même du pays est en jeu, selon le chef de l'État, après les attaques les plus meurtrières lancées par les djihadistes depuis des années. Dans un message à la nation, publié après un nouveau week-end meurtrier, le président malien, qui avait décrété plus tôt dans la matinée 3 jours de deuil national, souligne la gravité de la situation. Ibrahim Boubacar Keïta met en garde contre la tentation de tomber, je cite, dans le piège de l'ennemi qui est de nous opposer les uns aux autres et de saper le moral de nos vaillants combattants, dit-il. En Guinée, poursuite de la campagne du FNDC, le Front National pour la Défense de la Constitution, pour barrer la route à ce que l'opposition qualifie d'effort du pouvoir pour faciliter un éventuel troisième mandat pour le président Alpha Condé. 2 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées hier à Conakry, la capitale. C'était à l'occasion d'une marche organisée par l'opposition pour enterrer 11 Guinéens tués lors des récentes manifestations contre le projet de se maintenir au pouvoir attribué au chef de l'État. La marche a dégénéré en de nouveaux affrontements avec les forces de sécurité. Les détails avec notre correspondant à Conakry, Zakaria Kamara.
Dans la cour de l'hôpital sino-guinéen, plusieurs dizaines de membres du Front National pour la Défense de la Constitution. À quelques mètres des 11 cercueils, Seydou Dalein Diallo, chef de file de l'opposition guinéenne, répond aux questions des journalistes.
Monsieur Alpha Condé n'a pas voulu qu'il y ait un cortège à partir de l'hôpital Ignace Dine. Il s'était même permis, à la grande surprise de tout le monde, d'extraire les corps de la mort et de venir les jeter dans la cour de cet hôpital. Les corps que vous voyez là, la plupart sont décomposés en raison de ce traitement inhumain que Alpha Condé leur a infligé.
Tous sont venus apporter leur soutien aux familles des victimes. Pour l'ancien Premier ministre Sidya Touré, c'est aussi une occasion de dénoncer.
Donc nous venons soutenir les familles, mais en même temps nous venons crier notre colère par le fait que des jeunes gens de 16 ans ont été abattus dans leur cour. Nous venons crier notre colère par le fait que les Guinéens doivent avoir le droit. Il y avait une volonté délibérée de tuer des gens, de les effrayer, de mettre une chape de plomb sur la Guinée, ce qui ne se fera pas parce que nous ne l'accepterons pas.
Selon une source officielle, les échauffourées ont commencé après la prière de 14h à la mosquée de Bambeto, quartier périphérique de Conakry. 2 personnes sont mortes, mais le communiqué du ministère guinéen de la Sécurité ne précise pas si elles ont été tuées par balle. Ce jeune raconte ce qu'il a vécu sur le chemin du cimetière.
Arrivé au niveau de Bambeto, les forces de l'ordre se sont mis à tirer à balles réelles. Du coup, j'étais avec ce monsieur, tout juste au rond-point, il a reçu la balle au cou. Du coup, je dis, mais on l'a tiré, il m'a dit, on m'a tiré. J'ai directement appelé une moto pour le prendre et amener à l'hôpital. On a pris une moto, puis on l'a envoyé ici, pour les premiers soins.
Plusieurs blessés ont été admis dans des cliniques plus proches, comme le témoigne ce médecin.
Pour le moment, nous avons reçu plusieurs blessés venus de différents quartiers aussi, qui font un nombre de 5. Donc, un blessé grave qui a reçu une balle au niveau de l'épaule droite et deux autres qui ont reçu des balles aussi, un au niveau de la main droite et l'autre pied droit. Les autres, le quatrième qui a reçu un coup de pierre sur la tête et le cinquième qui a reçu un projectile qui n'a pas pu définir réellement le type de projectile qu'il a reçu sur le front.
Depuis plusieurs semaines, le Front National pour la Défense de la Constitution organise des manifestations de rue en Guinée pour exiger du président Alpha Condé le renoncement à son projet de nouvelle constitution. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Afrique de l'Ouest toujours, au Sénégal, un juge d'instruction a procédé à ses premières auditions dans une affaire de corruption présumée dans les secteurs du pétrole et du gaz. Une affaire dans laquelle est cité le nom d'un frère du président sénégalais Macky Sall. Le point avec Idriss Fall.
Au moins trois personnes ont été entendues hier par un juge d'instruction à Dakar, dont le journaliste Mamadou Mout Bané et l'opposant député Mamadou Lamine Diallo, très critique vis-à-vis du frère du président. Petrotim, une société de l'homme d'affaires australo-roumain Frank Timis, est au cœur d'un scandale. Selon une chaîne britannique, la société a versé une prime secrète de 250 000 dollars au frère du président Alu Sall, ce que celui-ci a démenti. Alu Sall, maire de Guédiawaye, a démissionné le 24 juin de la Caisse de dépôt et consignation, une institution financière qu'il dirigeait depuis deux ans. Le gouvernement a ordonné une enquête. Le procureur de la République, Serigne Bassirou Gueye, a lancé en juin un appel à témoins pour que les détenteurs d'informations sur la gestion du pétrole et du gaz puissent les livrer à la justice. Ainsi, plusieurs personnes ont été auditionnées par la division des investigations criminelles, la police judiciaire. La DIC a remis son rapport au procureur qui a saisi un juge d'instruction pour l'ouverture d'une information judiciaire.
Toujours concernant les hydrocarbures en Afrique, en Algérie, les députés algériens ont entamé ce mardi l'examen d'une loi controversée sur les hydrocarbures qui suscite une virulente opposition dans le pays. Le texte étant accusé de brader la principale richesse nationale aux multinationales étrangères. Critiqué ou soutenu dans les médias depuis plusieurs semaines, le projet de loi adopté le 14 octobre en Conseil des ministres n'a pas encore été publié officiellement et des moutures différentes ont circulé dans la presse. Résultat, ce mardi, plusieurs milliers de personnes, notamment des étudiants qui manifestent comme chaque semaine à Alger contre le régime, se sont rassemblés aujourd'hui devant l'Assemblée populaire nationale, la chambre basse du Parlement, pour protester contre la législation. La loi hydrocarbure à la poubelle, ont scandé les manifestants en appelant à faire tomber le Parlement avant de quitter les lieux au bout de 45 minutes environ. Selon les observateurs, la nouvelle loi vise à assouplir un cadre juridique et fiscal extrêmement contraignant et très peu incitatif qui a détourné les investisseurs étrangers de l'Algérie. Actualité hors d'Afrique maintenant, en Irak, la contestation a repris un tour violent avec des affrontements à Bagdad, la capitale. Les forces de sécurité ont également tiré lundi sur des manifestants près du consulat iranien à Kerbala, une des villes saintes de l'islam chiite. Les détails avec Abdourahman Dia.
Hier soir, les forces de sécurité ont tiré à balles réelles sur des manifestants qui avançaient vers le siège de la télévision d'État à Bagdad. Des affrontements ont eu lieu également aux abords de rues menant vers l'ambassade d'Iran. Les manifestants ont jeté des pierres alors que les forces de l'ordre ont tiré des grenades lacrymogènes. Avant-hier nuit, quatre manifestants ont été tués alors qu'ils tentaient d'incendier le consulat iranien à Kerbala, ville sainte chiite au sud de Bagdad. À Najaf, l'autre ville sainte chiite, les manifestants ont symboliquement effacé le nom de la rue Imam Khomeini pour la renommée rue de la Révolution d'octobre. Depuis dimanche, la désobéissance civile paralyse les routes, les infrastructures pétrolières et les administrations. Depuis quelques jours, la colère des protestataires qui réclament la chute du régime se concentre sur l'Iran. Le général Qassem Soleimani, commandant des opérations extérieures des gardiens de la Révolution, a multiplié les visites en Irak. Et les commentaires du guide suprême iranien Ali Khamenei, qui dénonce un complot américain et israélien, ont exacerbé la colère des Irakiens.
Et pour terminer, les États-Unis ont formellement notifié lundi à l'ONU leur sortie de l'accord de Paris sur le climat décidé dès 2017 par le président Donald Trump. Un départ qui sera officiel le 4 novembre 2020. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.